Les annonces du président Macron sur la fin de vie font réagir. La preuve ce matin avec votre invitée Isabelle Duché.
L'aide à mourir peut-elle être un geste de fraternité? Interrogeait la Croix suite à l'interview du président de la République publiée dans ses colonnes et dans Libération le 10 mars. Une interview qui a suscité de nombreuses réactions. Et nous allons parler de ce sujet avec mon invité, le professeur Michel Clanet. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes...
aux auditeurs.
Merci, vous
et
êtes...
auditrices.
Neurologue et président de l'espace régional éthique Occitanie qui a organisé pendant ces deux dernières années, on va dire, de grandes conférences, débats et vous avez aussi mis en œuvre des ateliers fin de vie dans la quasi-totalité des départements de la région. Cette loi, nous l'avons pensée comme une loi de fraternité, une loi qui concilie l'autonomie de l'individu et la solidarité de la nation. C'est ce qu'indiquait en préambule le président de la République. Comment, Michel Clanet, comprenez-vous ce terme de loi de fraternité ?
Je pense que je vais reprendre un petit peu, finalement, les termes de Frédéric Worms, le grand philosophe français actuellement, qui explique que nous sommes actuellement dans une civilisation du soin et de l'accompagnement, effectivement, et où l'aide à mourir veut dire aide, c'est-à-dire l'appel de quelqu'un qui arrive dans... la période ultime de sa vie, et à mourir, c'est-à-dire qu'effectivement, il est dans une situation où sa fin de vie est totalement inéluctable, et donc il demande une aide, et donc il a traversé, et c'est comme ça qu'il faut l'envisager peut-être, il a traversé tous les soins, il est arrivé à la fin, il a passé le moment des soins, et il n'est pas sûr qu'on puisse considérer que l'aide à mourir soit un soin ultime, comme certains peuvent le dire, mais c'est un moment où son appel à l'aide doit être entendu. Et on est toujours un petit peu, si vous voulez, sur la ligne de crête entre la solidarité, d'une part, que l'on doit aux plus vulnérables, et puis l'autonomie de la personne. Et c'est justement peut-être ce qui nous donne à réfléchir aujourd'hui autour de ce sujet si complexe. Il n'y a pas une fin de vie, il y a chaque fin de vie de chaque personne, une singularité, c'est extrêmement complexe.
C'est extrêmement complexe. Le Monseigneur de Moulins-Beaufort a parlé d'une tromperie. Il a dit appeler loi de fraternité un texte qui ouvre le suicide assisté et l'euthanasie est une tromperie. Je voudrais qu'on revienne sur ce terme de aide à mourir, puisque vous dites bien, professeur Michel Clanet, que en fait, à chaque moment de la vie et jusqu'à la mort, chaque patient a besoin d'une aide, mais c'est une aide dans son accompagnement, c'est pas forcément une aide pour pousser la seringue.
Oui, tout à fait. Alors pousser la seringue, c'est l'euthanasie.
Oui. Hein?
C'est-à-dire avoir la volonté de pousser la seringue en mettant un produit létal, donc par quelqu'un d'autre, c'est l'euthanasie. Le suicide assisté, c'est permettre à la personne, effectivement, qui est arrivée dans un moment ultime de sa vie, pour laquelle la médecine ne peut plus rien, et qui souhaite finir, ne plus souffrir. Il est arrivé dans un moment où les traitements n'ont plus de possibilité. Il est arrivé dans le moment où il y a un refus de soins, et donc il appelle à l'aide à ce moment-là. Et donc, je pense que le terme... Alors, certains considèrent que le terme d'aide à mourir est finalement une tromperie. Mmh. D'autres considèrent effectivement que le terme aide à mourir peut-être définit mieux quelque chose que le suicide assisté, parce que le suicide ou l'euthanasie ont d'autres types de connotations. Et en particulier, le suicide, le médecin et les médecins aussi, en particulier, souhaitent éviter effectivement d'employer ce terme, puisque la prévention du suicide, c'est quand même un sujet majeur.
Oui, et puis c'est une lutte
dans la santé mentale.
Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, oui. Alors, est-ce que c'est pas aussi, si on reprend cette phrase d'Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, ne pas dire finalement... employer ces mots euthanasie et suicide assisté, est-ce que ce n'est pas justement un peu brouiller les pistes?
Alors j'écoutais l'autre jour un débat entre Frédéric Worms et Jacques Ricot, leur étant, vous les connaissez, donc deux philosophes, et chacun ayant cité Albert Camus pour la même chose. Donc on peut considérer effectivement que c'est mal nommé ou au contraire bien nommé. suivant le regard que l'on va porter sur le sujet, quoi. Donc chacun l'a porté exactement pour le même terme, l'aide à mourir.
Oui, hein, l'aide à mourir. Alors c'est vrai que dans son interview du 10 mars, Emmanuel Macron a énoncé quatre conditions ouvrant la voie à l'aide à mourir. La première est que cet accompagnement, je cite ces mots, sera réservé aux personnes majeures. En quoi cette affirmation peut-elle être plus ou moins rassurante ?
Personne majeure, je pense que le sujet le plus important dans cette approche-là, d'abord, je crois qu'il faut considérer que, et on le voit très bien avec la loi Claeys-Leonetti, puisque nous n'en avons pas encore parlé, mais c'est quand même d'abord les soins palliatifs qui sont l'élément important et l'insuffisance qu'il y a actuellement au recours aux soins palliatifs. On l'a bien vu dans l'ensemble des débats que nous avons faits dans les territoires, où nos citoyens, dans tous ces départements, nous ont dit la grande difficulté qu'il y avait à avoir accès aux soins palliatifs. Et oui. Je pense qu'il y a d'abord la possibilité d'avoir accès à ces soins d'accompagnement avant, effectivement, d'envisager cette aide à mourir qui représente un petit pourcentage, si effectivement les soins palliatifs sont accessibles et correctement réalisés.
Oui, Claire Fourcade, la présidente de la Société des soins palliatifs, disait qu'aujourd'hui en France, 500 personnes meurent tous les jours sans avoir accès aux soins palliatifs.
Oui, bien sûr. C'est ça, c'est le sujet. Et il est clair qu'il est absolument indispensable, mais c'est le cas, je crois, absolument indispensable que si on légifère sur l'aide à mourir, il y a en même temps une loi sur les soins d'accompagnement, les soins palliatifs, les soins de support. Toute cette approche-là, qui est l'approche majeure du soin dans la fin de vie et qui résout, même dans nos expériences, et je suis spécialiste des maladies neurodégénératives, hein, même dans nos expériences, la plupart des problèmes de fin de vie des personnes atteintes de ces maladies.
Alors, puisque vous parlez de ces maladies...
Non, vous
oui,
me parliez
des personnes
jeunes,
majeures.
Des personnes majeures. Mm. Je crois qu'il est absolument essentiel, effectivement, de se rendre compte que cette aide à mourir, c'est une aide que demande quelqu'un qui a tout son discernement et qui a, effectivement, sa majorité pour ne pas éventuellement pouvoir être influencé par les parents. Et donc, le sujet de la fin de vie des mineurs est un sujet qui est extrêmement difficile et pour lequel, pour le moment, la plupart même des sociétés qui s'occupent, qui ont accepté l'idée d'accompagner la fin de vie, euthanasie, suicide assisté, n'ont pas légiféré. Hein, c'est un sujet très difficile. Et on a bien vu, quand on discutait avec nos citoyens dans les débats territoriaux, que quand on abordait le problème des enfants, c'était extrêmement compliqué, beaucoup plus compliqué encore que la fin de vie.
N'y a-t-il pas des pays, je pense par exemple à la Belgique, où maintenant l'euthanasie est permise pour des personnes mineures ?
Alors, il y a, je crois qu'en Belgique, dans des cas exceptionnels, effectivement, il y a un ou deux pays qui ont légiféré sur le sujet. Au Canada,
donc il y a un risque de dérive
encore
quand même.
Alors, si vous voulez,
qu'on peut craindre.
Je pense que le risque de dérive existe partout et pour tout, mais je pense, est-ce qu'il faut prendre les excès comme étant une règle pour empêcher la mise en place de quelque chose? Je crois que ce n'est pas le cas. Et je pense qu'il y a aussi, la loi nous le montre bien dans beaucoup d'endroits quand même, qu'on peut arriver à border correctement à partir du moment où la société décide de mettre en place quelque chose. Il faut éviter les dérives et je peux vous dire que dans les débats que nous avons eus dans les départements, la majorité des citoyens étaient en faveur qu'il y ait une évolution, mais avec des règles
avec
extrêmement strictes sur la mise en place.
Professeur Michel Canet, vous êtes neurologue et donc vous avez une connaissance particulière de ces maladies neurodégénératives, celles dont on entend quand même beaucoup parler dans ce débat sur la fin de vie, et notamment les maladies de Charcot, pour lesquelles nous entendons, citoyens lambda, que nous n'avons pas de solution pour soulager la souffrance. Aujourd'hui, en 2024, est-ce que ces patients-là peuvent être accompagnés jusqu'à leur mort naturelle avec une souffrance qui peut être soulagée ?
Parlons de la maladie de Charcot, si vous voulez bien, puisque c'est elle qui est particulièrement médiatisée en ce moment. J'ai relation avec un de mes collègues qui s'occupe de l'accompagnement dans le centre de référence concernant ces maladies et qui accompagne plus de centaines de personnes par an qui vont malheureusement décéder de cette maladie. Il se trouve que, et nous allons probablement faire un petit texte là-dessus, il m'a bien précisé que dans la quasi-totalité des cas, avec une anticipation et un accompagnement de soins palliatifs, le problème de la fin de vie des personnes atteintes de maladie de Charcot se passait dans les conditions de la loi Claeys-Leonetti avec une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et il m'a confirmé que la demande de suicide assisté avait été l'exception et qu'il avait deux ou trois personnes en plus de 10 ou 15 ans qui étaient allées en Suisse pour cette chose-là. Ce qui est important aussi, et je souhaitais en parler là, c'est que la médiatisation importante que l'on fait autour de la maladie de Charcot crée actuellement, chez les personnes qui sont atteintes de ces maladies, une extrême angoisse. Et je pense qu'il faudrait peut-être un peu moins en parler, et cela permettrait aux personnes qui en sont atteintes de pouvoir vivre leur maladie avec tout l'accompagnement qui est apporté par les centres de référence et par les personnes qui s'occupent de ces patients tout au long de leur vie qui est effectivement difficile.
Oui, ou au moins en parler pour dire la vérité et qu'ils pourront être accompagnés avec les moyens de la médecine qui peut soulager leur souffrance.
Il serait important, effectivement, qu'on puisse aussi faire que ces patients, lorsqu'ils en ont besoin, puissent être hospitalisés dans de bonnes conditions et peut-être pas toujours refoulés, comme ça peut arriver quelquefois dans certains établissements.
Oui. Donc finalement, cette réponse à ce projet de loi de l'aide à mourir, je le mets entre guillemets, c'est vraiment le développement de ces soins palliatifs. Et pourtant, il n'y aura qu'une enveloppe d'un milliard d'euros pour le plan décennal. C'est finalement le budget du fonctionnement des soins palliatifs.
Alors, il y a eu beaucoup de plans au cours de ces dernières années. Il y a eu plusieurs plans de soins palliatifs. Je me suis moi-même occupé d'un plan des maladies neurodégénératives et j'ai travaillé avec les personnes qui s'occupaient du plan de soins palliatifs. Je pense qu'il y a des efforts assez conséquents à faire. Il y a une stratégie décennale, et ça, je crois que c'est important. Une stratégie décennale veut dire que on va prendre le problème de façon plus approfondie. Il y a des propositions dans le projet de loi qui est envisagé. Je pense que Régis Aubry en a parlé il n'y a pas longtemps. Alors, que veut dire je ne sais pas du tout. On n'a pas la connaissance de tous les besoins à l'heure actuelle de manière précise et parfaitement financée. Je crois qu'il est important qu'on puisse prendre en conséquence le sujet, parce que c'est, à mon avis, le sujet essentiel. Mais cet effort, il doit être réalisé et je pense qu'il le sera.
Alors, un effort qui va être réalisé, nous l'espérons, sur les soins palliatifs. Merci beaucoup, professeur Michel Clanet. Malheureusement, déjà, le temps de nous quitter. Un petit appel quand même du président de la Conférence des évêques de France. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour penser qu'une société se grandit en refusant de donner la mort et en mobilisant ses forces pour accompagner chacun jusqu'au bout de sa vie, à bon entendeur. Merci beaucoup, professeur Michel Clanet.
Merci, madame.